t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mboujima, locataire oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Le président de la République a rencontré mardi 21 mars dernier le chef des différentes institutions du pays dans le cadre de la réunion interinstitutionnelle. Plusieurs points ont été abordés, notamment celui sur les processus électoraux. À ce sujet, il a été recommandé le recours au mode de vote électronique en vue de réduire les coûts des opérations électorales et de fiabiliser les résultats électoraux et ce moyennant une étape pédagogique. Une certaine opinion pense que cette disposition est inopportune. Une autre, par contre, pense qu'elle peut néanmoins régler l'épineux problème du budget électoral. Qu'en pensez-vous? Réagissez sur notre page Facebook et commentez aussi ce sujet à l'adresse pa@radiocapi.net. Vous avez également la possibilité de nous appeler au 081 890 63 80 ou bien au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Nico Kalambay est à la réalisation de cette émission mise en onde par André Mongou sous la supervision de Martin Sebujangwe. Cette émission est coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo. Cette émission en parole aux auditeurs est une rediffusion.
Selon une analyse faite par le projet d'application des droits civils et politiques de l'Institut des recherches en droits humains, IREDH, le vote électronique comprend des avantages ainsi que plusieurs inconvénients. S'agissant des avantages, il y a entre autres les avantages liés à la simplification du processus électoral, l'assurance d'une plus grande confidentialité aux personnes vivant avec handicap, ainsi que l'obtention des résultats électoraux plus rapides et plus fiable. Mais en ce qui concerne les inconvénients du vote électronique, ces inconvénients, selon cette étude, sont liés notamment à la sécurité du vote, la menace de virus informatique et d'attaques de systèmes orchestrés par des pirates inquiètent le plus. La fraude et la coercition font que chaque vote comptabilisé ne reflète plus l'opinion de l'électeur. Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à vouloir participer à cette émission. Nous vous accueillons dans cette tribune d'échange citoyen. Rudy, vous êtes à Lubumbashi, John à Kinshasa et nous avons également notre invité qui est Jérôme Mbosso, le président de la LINELIT, Ligue Nationale des pour des élections libres et transparentes. Alors Rudy, vous êtes avec nous à Lubumbashi. Bonjour Rudy.
Bonjour monsieur Jean-Romain.
Voilà, John, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour, John.
Oui, bonjour, M. JR. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Est-ce que vous êtes d'avis que les votes électroniques, en fait, comprennent des avantages ainsi que des inconvénients? Est-ce que par rapport à notre contexte sociopolitique, vous estimez que c'est opportun de procéder à ce vote électronique en ce moment?
Oui, par rapport à l'opportunité, bon, moi, je dirais que c'est inopportun pour le moment. Compte tenu de la situation que traverse notre pays, et notamment le pays qui présente d'énormes difficultés quant à la desserte en énergie électrique, l'analphabétisme qui bat son plein presque dans tous les coins du pays, et il faudrait aussi penser à une gestion insuffisante des données informatiques qui est presque générale. Et quand je parle de ça, je vois le processus électoral. Par rapport à l'enrôlement des électeurs, vous trouverez qu'il y a des gens qui peuvent s'enrôler plusieurs fois et sans que cela ne soit détecté. Dès le jour où le monsieur se présente, et cela risquerait d'avoir des répercussions si le système est ramené au niveau des votes. On risque d'avoir des faux résultats par rapport à la réalité des choses. Quant aux avantages, je pense que si ce système-là est instauré en République démocratique du Congo, et s'il s'inscrit peut-être dans une durée à long terme, je pense que cela permettra à nos experts ainsi qu'à nos partenaires internationaux pour faire une étude de faisabilité par rapport à toutes les difficultés qui y afférentes. par rapport, par exemple, la réhabilitation des infrastructures routières, la remise à niveau de la desserte en énergie électrique, ainsi que la gestion, comme vous venez de le dire là, de virus informatique qui peuvent rendre, c'est-à-dire les résultats, pirater certains résultats. Je pense qu'à ce niveau-là, le vote électronique, pour le moment, il est encore inopportun, bien qu'il présente des avantages peut-être pour une durée à venir.
Merci beaucoup John d'avoir appelé. Nous retenons que c'est pour vous donc c'est inopportun pour le moment parce que vous au regard de la situation socio-politique de notre pays et vous avez mentionné il y a déficit à l'énergie, la RDC traverse cette difficulté, il y a cette question de l'analphabétisme qui bat son plein, les taux d'ailleurs par rapport aux experts et par rapport aux spécialistes, les taux est très élevé, l'insuffisance des données informatiques, nous venons de le dire, les cas des cyberattaques ou encore des cas de piraterie, de piratage donc des informations. Alors, pour nombre des avantages, c'est vrai que vous avez rejoint, c'est que l'étude faite par l'UDRH qui parle de la rapidité de résultats, ça nous réduirait les temps que prend d'ailleurs les centres de compilation, ça pourrait permettre à beaucoup de choses, mais il faudrait qu'on arrive d'abord à avoir du temps, si cela s'inscrit dans la durée, pratiquement à long terme, ça pourrait permettre aux partenaires de faire une étude minutieuse sur les éléments pouvant entrer en ligne de compte pour aider que cela soit très bien fait. Merci beaucoup John d'avoir appelé de Kinshasa. On va prendre Rudy qui est à Lubumbashi. Bonjour Rudy.
Bonjour monsieur Jean-Robert.
Voilà, Jean-Claude vous êtes avec nous, bonjour. Voilà Jean-Claude vous êtes avec nous. Voilà c'est Rudy vous êtes avec nous.
Oui je suis avec vous.
Voilà. Alors Rudy, là je vous capte difficilement, je n'ai pas de retour. Rudy, est-ce que c'est opportun? Allô?
Non, pour... Allô?
Voilà, alors
pour
Rudy...
Pour le moment, c'est inopportun.
Oui, Rudy, allez-y. Allô?
Je dis ceci, pour le moment, c'est inopportun de passer à ce système de vote-là. Le CJR, vous savez que il est recommandé que tout électeur doit voter dans son centre là où il s'est enrôlé. C'est-à-dire, il faut déployer ces appareils-là électroniques dans tous les centres, sur tout le territoire national. Alors, ce vote-là, ça va se passer dans combien de jours? Dans combien de jours ce vote-là va se passer? C'est-à-dire, il y a aussi un autre problème. Vous savez que dans notre pays ici, il y a trop de gens qui n'ont pas eu les moyens d'étudier. Il y a aussi les personnes de troisième âge, MCJR. Comment est-ce qu'ils vont s'adapter? Parce que avec d'abord le système électoral des bulletins de vote, ils n'ont pas pu s'adapter. Voilà. Maintenant, avec ce système-là électronique, ça va se passer comment? Alors, un autre point aussi que j'ai soulevé. On dit que, moyennant une étape pédagogique. Donc, il faut des formations
pour la sensibilisation,
utiliser ces machines. Tout cela, ça demande des moyens. Créer ces machines-là, ça demande des moyens, messagères. Vraiment, c'était l'idée qui se cache derrière ça. J'ai soulevé encore un autre point. En changeant ce système de mode de vote, et passer vers ce mode-là électronique, n'est-ce pas, on ne doit pas modifier aussi la loi électorale, messagères. On ne doit pas modifier la loi électorale. Et en modifiant cette loi électorale, messagères, je pense que certains articles de la Constitution doivent aussi être changés. Alors, tout ça, quelle est l'idée qui est cachée là derrière? Les moyens, est-ce qu'il faut augmenter les moyens ou bien il faut diminuer les moyens? Parce que notre budget électoral pose problème. C'est un peu ça ma contribution, monsieur.
Merci beaucoup, Rudy, d'avoir appelé 081-890-63-80 ou encore le 081-890-49-69 pour votre intervention en direct.
Congolaises et Congolais, l'enrôlement des électeurs tire à sa fin. Allez-y vite vous faire enrôler dans le centre d'inscription de la CENI le plus proche de votre maison, dans votre commune ou dans votre groupement.
Quelles sont les pièces à présenter pour se faire enrôler?
L'acte de naissance ou sa copie certifiée conforme, le certificat de nationalité, la carte de lecteur 2010-2011 délivrée par la CENI, le passeport congolais en cours de validité,
la carte d'étudiant ou d'élève en cours de validité et le livret de pension congolais.
J'ai ma nouvelle carte d'électeur, je voterai. Et toi?
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Capi. Jérôme Bosso, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Jérôme Gère, bonjour à tous les nombreux auditeurs de parole aux auditeurs.
Alors si nous nous référons à cette analyse faite par IDRH autour des votes électroniques qui comprend en fait des avantages et des inconvénients, alors est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans les contextes sociopolitiques, c'est opportun d'aller vers ce mode de scrutin?
Oui, c'est opportun, mais quand bien même cela est dit, nous devons nous référer à ce que le législateur congolais a dit, qui est contenu dans la loi électorale. La loi électorale, section 2, à ce qui concerne les opérations électorales, loi électorale modifiée en 2015, dans son article 47, modifié en 2015, dit ceci. Le vote s'effectue soit au moyen d'un bulletin papier, soit par voie électronique. Donc, on donne, le législateur congolais donne l'opportunité au pouvoir organisateur des élections, qui est la Commission électorale nationale indépendante, de procéder selon les contextes, soit par le vote bulletin papier, soit par voie électronique. Mais vous pouvez poser la question et c'est approprié. Tout d'abord, définissons que veut dire vote électoral et électronique. C'est un système de vote qui est matérialisé à comptage automatisé, notamment des scrutins à l'aide de systèmes informatiques. Et ici, si vous connaissez, on citer un certain nombre d'avantages. Un autre, le plus intéressant, c'est on a le résultat immédiatement dès la clôture du bureau de vote. Et il y a une certaine confidentialité et secret de vote. Mais ce qui est intéressant aussi dans le système électoral, dans le vote électronique, c'est l'absence de vote nul. Parce que vous ne constaterez pas de vote nul. Et il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est un vote qui est moins coûteux et on lutte contre l'abstention parce que c'est un vote qui se fait en ligne. À ce moment-là, nous devons voir les désavantages. Les avantages qui concernent notre pays. Parce qu'il faut faire le vote électronique. À quand? À moyen, à court et à long terme. Nous pouvons mettre ça à long terme. Parce que si on met à moyen terme, il faut franchir 4 étapes. La première étape, il faut faire appel d'offres. Deuxième étape, il faut tester le matériel. Troisième étape, il faut passer la commande. Quatrième étape, il faut déployer. Parce que là-bas, on va commander des machines à vote électronique. Ces machines-là coûtent aussi cher, plus cher que les électoraux que nous avons. Et tout ça nous prend du temps. Et quand le soir électoral nous renseigne, il n'y a qu'un seul pays africain qui devient assez dosé pour recourir au vote électronique. C'est le cas du Nigeria. Il y a longtemps annoncé qu'il va faire, mais a toujours reporté de passer par le vote électronique. Donc, ici, nous devons faire attention. Quand on a des avantages du vote électronique, sous d'autres yeux, c'est un vote qui est maintenant en train d'être mis en question. Allusion faite aux élections
des États-Unis,
législatives françaises. En fait, le vote de français de l'étranger, on avait suspendu le vote électronique pour les législatives en France. Et parce qu'il y avait des problèmes. Et aujourd'hui, le débat est relancé à ce qui vient de se passer aux États-Unis d'Amérique. Avec les élections Hillary Clinton contre Donald Trump. Une entreprise américaine vient de vous donner des résultats. Avec accès physique aux appareils de vote électronique, on peut falsifier les résultats des élections. Donc, il y a des soupçons de vote, fraude électorale sur ce mode. Parce que là-bas, on voit qu'on commence à recourir à piratage électoral. C'est ce qui touche aussi, qui frappe aussi la France. La France, député Parti Socialiste, a demandé au gouvernement français de sécuriser le processus électoral à cause de cyberattaque ou bien cyberpiratage. Donc, c'est à nous. Ici, on ne peut pas rêver, dans notre pays, on ne peut pas rêver que on va avoir le vote électronique à court ni à moyen terme, mais plutôt
à long terme.
Expérimenté à long terme. Là, nous disons qu'il est important de privilégier le vote à bulletin papier. Quand bien c'est un vote qui est trop coûteux. Prenons le cas du Congo. Les élections prochaines, l'invitation provinciale, nous attendons 350 000 candidats. On va imprimer un bulletin de vote qui va contenir plus de 75 pages. et tout ça, le truc de bulletin d'impression, comment d'impression bulletin de vote, ça, c'est au-delà de 300 millions de dollars. Et si on avait ce système, l'autre système, auquel on voulait aller se réfugier, là aussi c'est ce problème. Ce système est en train d'être remis en question. Que faire? C'est d'où? Nous avons tout intérêt pendant cette période, comme le législateur congolais l'a bien stipulé dans l'article 47 de la loi électorale modifiée en 2015. Donc, soit on passe par le bulletin papier, soit par vote électronique, mais vote électronique pose des problèmes, il y a autant de problèmes, il y a autant de cas à franchir, ce qui n'est pas certain pour nous, mais c'est voir comment on peut encadrer le vote à bulletin papier. Quand même, c'est trop coûteux et ça poserait des problèmes. Comment on est en train de revoir? De revoir quel type de vote on peut arriver à faire à moindre coût. C'est ça le problème. Mais le problème, comme la République du Congo, nous sommes d'accord parce que la science a évolué. Nous voulons aussi évoluer avec la technologie. Mais la technologie dépend aussi des contextes et des cultures d'un peuple. Notre contexte, notre culture, on aura encore difficile, comme il y a un intervenant qui a dit, problème d'analphabète. Cette femme, cet homme qui habite dans nos villages, très reculé, est-ce qu'il sera apte à opérer un vote électronique? Et cet homme, est-ce que nos agents électoraux seront-ils bien formés à manipuler le vote électronique?
Jérôme, il y a une question parce que c'est vrai, cette recommandation a été assortie d'un autre souci, c'est celui de pouvoir organiser au fait des séances pédagogiques au niveau de la population qui appelle également à la sensibilisation. Un auditeur l'a dit tout à l'heure, ça va demander également des moyens, donc ça ne va pas résoudre le problème de moyens que nous évoquons à tout moment.
Tout à fait, ça ne va pas résoudre le problème de moyens. Parce que le moyen, c'est quoi? Nous avons eu des problèmes pour les kits de la commande des kits électoraux, ça nous a coûté autant de millions. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous disposons des machines à vote électronique ne sont pas encore connues, ne sont pas encore commandées, et qui va disposer déjà le fonds? Là, d'ailleurs, les 526 millions que la CENI exige à l'heure qu'il est pour parachever ce reste de trois cycles électoraux. La séquence électorale de l'élection présidentielle, députation provinciale, députation nationale pose problème. Là, c'est notre problème qui va se régler. Quand même au niveau du législateur, le son est déjà levé, l'option est déjà levée, on peut le faire. Mais au niveau de matérialisation de cette question, ça poserait nous mettre dans la merde.
Voilà. Alors, si je comprends bien pour vous, Jérôme, dans la pratique, c'est pas faisable avant plus de 6 ans, donc c'est pas faisable. Il faut vraiment une étude minutieuse, comme l'a dit d'ailleurs, l'a souhaité également un auditeur tout à l'heure. Mais néanmoins, vous reconnaissez que le législateur a déjà résolu ce problème en inscrivant dans la loi telle que modifiée en 2015, en son article 47. Donc, je parle de la loi électorale, que le vote se fait en deux mode, donc c'est-à-dire mode papier ou mode électronique. Donc c'est ça peut être opportun, mais par rapport à notre contexte sociopolitique actuel, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne des comptes, entre autres l'analphabétisme et le taux qui est très élevé, les problèmes de la technologie qui posent encore problème et l'énergie. Et vous avez reconnu que en cherchant à réduire d'ailleurs les dépenses, on augmente les charges d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup Jérôme Bosson, nous vous gardons en ligne, le temps d'accueillir deux autres auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Sylvain Akananga et Jean-Claude Akindou. Sylvain, vous êtes avec nous. Bonjour Sylvain.
Bonjour à la radio Capu et bonjour à tous les auditeurs.
Alors Sylvain Katala, est-ce que vous êtes d'avis qu'effectivement on peut passer facilement au mode électronique parce qu'il y a des avantages, ou carrément vous y mettez un peu de doute comme tous les autres que vu les inconvénients, ce n'est pas le moment?
Merci Monsieur Gier de la question. Je vais d'abord relever les avantages de ce vote électronique. Je crois que un individu peut passer au vote, qu'il soit chez lui ou pas, à distance ou pas, c'est vraiment très bien, mais c'est un système sur lequel nous devons d'abord analyser son contenu. Et puis nous devons d'abord nous poser la question, le système de vote que nous avions auparavant et qui nous a conduit à des reprises aux élections, bon, a connu quelle défaillance, et actuellement on doit nous appeler à un autre système. C'est ça la question que nous devons nous poser. En plus de cela, nous voyons que les gens qui doivent se présenter au vote, nous avons les autres qui sont par exemple au village, avec les téléphones téléphone tout simplement des communications, ils n'ont pas pu s'adapter pour rédiger même un texto. À combien plus forte raison avec les votes électroniques, parce qu'on va demander de machines. Et puis moi je suis en train de voir que ça peut encore nous apporter des retombées sur le plan budgétaire des agents qui doivent travailler à la CENI, parce que on a parlé du budget qui pose tant de problèmes actuellement. On dirait que les votes n'auraient pas pu avoir lieu en date précise ou en 2017, c'est compte tenu du budget. Est-ce que ce budget est-il déjà suffisant? Ce budget, est-ce que va nous permettre d'engager encore de machines électroniques, de payer les agents et tout consort? Ce que nous voulons, c'est tout simplement ne pas encore nous retrouver devant l'empêchement qui dirait que non, sur tel plan, les élections n'auront pas lieu. C'est parce que nous avons engagé des machines coûteuses. Nous allons en 2018-2019. Ça, vraiment, monsieur Juer, je ne suis pas d'avis.
Merci beaucoup, Sylvain. Pour vous, il va falloir d'abord ressortir les défaillances de ce mode actuel que nous utilisons après avoir organisé par deux fois des élections dans notre pays. Vous estimez que ce mode apportera beaucoup, c'est vrai, certes, la réduction des dépenses, mais augmentera les charges et ça ne permettra pas au gouvernement d'avoir des moyens de sa politique pour réellement aller aux élections qui est du reste séquencée selon l'accord du 31 au 31 décembre prochain et selon l'accord de l'Union africaine au mois d'avril 2018, donc soit nous sommes dans la marge d'une année. Voilà pourquoi notre invité a proposé que ces projets puissent s'inscrire à une longue durée. Jean-Claude, vous êtes à Kindu. Bonjour et bienvenue.
Bonjour mon cher ami J.E., bonjour aussi à tous les amis de Radio Okapi.
Alors après avoir écouté les uns les autres, John qui a évoqué quelques aspects qui pourraient au fait ne pas être à l'avantage donc de ce mode, notamment le cas de l'alphabétisme que nous connaissons avec un taux très élevé, l'insuffisance des données informatiques et le déficit au niveau en énergie à travers le pays et tant d'autres problèmes qui constituent au fait les désavantages, mais il y a également les avantages liés, c'est-à-dire la rapidité des résultats qui pourraient disons entourer ces modes des élections.
Oui, je viens de partager, je suis d'accord avec tous les intervenants. D'ailleurs, pour tout observateur objectif, sinon tout analyste bien avisé en matière électorale vous dira que ces votes sont inopportuns pour le moment. C'est pas ça la priorité. Comme vient de dire M. Sylvain de Kananga, on va d'abord découvrir quelles sont les défaillances, parce que nous avons organisé les élections en 2006 et en 2011. Quels ont été les résultats? Donc, de toutes les façons, notre pays connaît un taux d'analphabétisme à outrance. Imaginez-vous une maman qui se trouve, par exemple, à 200 ou à 300 km de Kindu, ici chez moi, qui n'a jamais vu. Il y a des femmes qui n'ont jamais vu même de téléphone, mon cher ami. Nous sommes ici, nous avons des licenciés qui n'ont jamais travaillé avec l'ordinateur. Et puis, vous venez, vous nous dites que non, nous sommes prêts à aller au vote électronique. C'est quoi ça? Moi, je pense que ça, c'est de la bouillabaisse. C'est pas ça la priorité. Nous devons d'abord regarder là où nous étions, où sommes-nous et où allons-nous. Moi, je pense que même les pays des grandes démocraties comme
Oui, Jean-Claude, mais les législateurs congolais, oui. Les législateurs congolais y avaient déjà pensé. L'article 47 de la loi électorale, tel que modifié en 2015, dispose déjà le vote de façon soit mode papier ou mode vote électronique. Donc c'est là, n'est pas nouveau.
Bien sûr, c'est pas nouveau. Ce sont les hommes. Moi, je sais que on a toujours dit l'œuvre humaine connaît des imperfections. C'est pas nouveau. Ils ont dit ça. Je sais pas quelle a été la couverture juridique ou par quelle motivation ils ont dit que non, nous devons aller au vote électronique, alors que nous avons des grandes puissances, les pays des grandes démocraties, qui jusque là nous trouvons qu'il y a des problèmes.
Exactement.
Imaginez-vous à l'époque de président George Bush. Je pense que c'était en 2001 avec Al Gore. Il y avait des problèmes. Tout de suite ici, Hillary Clinton avec Trump, il y avait des problèmes. Mais que dire nous ici? Moi, je pense que nous devons éviter de créer des problèmes. Quand on veut résoudre un problème, on a toujours dit que non, il ne faut pas chercher à créer des problèmes tout en pouvoir diviser ou à chercher d'autres histoires. Non, c'est pas ça le moment.
Merci beaucoup, Jean-Claude.
Nous avons des priorités et nous devons aller juste aux élections. avec le même mode que nous avions auparavant.
Merci beaucoup Jean-Claude. Et là vous avez évoqué des cas d'écoles, en tout cas de, qui ont fait cette mauvaise expérience de vote électronique. Nous vous les concédons. Vous avez évoqué les cas des États-Unis avec les dernières élections, Hillary Clinton et Trump. Et vous avez également, vous êtes allé encore plus loin en rappelant l'histoire de 2001 avec George Bush et Alidor. Voilà, qui a comme conséquence aujourd'hui en France par exemple, les débats est relancé encore sur la place publique en ce qui concerne le vote électronique des Français vivant à l'étranger. Je crois que le débat et le ministère de l'Intérieur s'est prononcé déjà quant à ce pour dire, mais voilà, on maintient la position que ça sera supprimé. Alors merci beaucoup Jean-Claude. Franck, vous êtes à Vienne, bonjour et bienvenue.
Bonjour monsieur les journalistes et bonjour à tous les amis de PA. Mais on ne vous capte pas sur internet depuis samedi, si il y a lieu de le dire à vos techniciens.
Merci beaucoup Franck, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, merci beaucoup. Si vous aviez bien exploité mon point de vue, je vais commencer par lire d'abord ce que les compatriotes congolais ont tenu comme point de vue de part et d'autre. C'est ainsi que je suis arrivé à retravailler aussi le mien. Je crois que le problème du système de vote électronique, c'est pas une mauvaise suggestion. L'idée en soi est bonne, mais le problème c'est seulement de réunir les paramètres dans lesquels ce système de vote doit avoir lieu. Nous savons que notre pays se trouve dans des réalités telles que nous les connaissons tous. Donc ce n'est même pas un secret, et ce n'est même pas de la lèse majesté si nous devons rappeler que dans la plupart de nos milieux, d'abord, l'accès à l'énergie électrique pose énormément de problèmes. Alors si déjà l'accès seulement à l'énergie électrique pose énormément de problèmes, on ne peut pas parler encore de l'accès sur Internet qui est encore un luxe. L'ami qui venait d'intervenir avant moi vient de le rappeler qu'il y a des intellectuels congolais qui ne l'ont jamais utilisé. Et moi, je peux ajouter que même dans beaucoup de bureaux, même de l'administration publique chez nous, peut-être dans certains centres urbains, c'est encore une exception, mais moi, je peux dire que même dans beaucoup de chefs-lieux de nos provinces, dans beaucoup de bureaux, ils n'ont même pas encore accès à l'Internet. Dans des universités, dans des sites universitaires, dans beaucoup de filières universitaires, les étudiants n'ont pas encore accès à l'Internet. Alors, parler de ce vote sur Internet, c'est d'abord réunir tous ces paramètres-là d'accès et à l'énergie électrique et à l'informatique, et donc à l'Internet. Alors, si nous savons déjà que la plupart des Congolais vivent dans des milieux qui ne sont pas électrifiés, et nous devons partir de ce fait que la plupart des Congolais ne savent pas encore utiliser l'informatique, donc ça risque de poser énormément de problèmes pour parler de système de vote. Ça, c'est un. Un autre problème, si nous devons voir le conditionnement dans lequel la CENI est en train de travailler, je crois que la CENI est en train de travailler à base d'une loi électorale qui parle plus du système de vote par bulletin. Alors, si on doit maintenant l'initier seulement maintenant, à quelques mois de la tenue de ces scrutins au mois de décembre, ça risque encore de poser beaucoup de problèmes parce qu'on devrait encore initier les personnels de ces bureaux de vote qui devaient travailler pour ces systèmes de vote et aussi initier les électeurs à savoir utiliser comment ça peut se passer. Quoi. Plus de trois mois, je crois que pensant réduire les coûts, ça risque encore d'augmenter les coûts. Alors moi, je trouve que ce qui est dit, ce que vous venez de dire là, a déjà été pensé, mais c'est peut-être mieux de terminer d'abord le processus actuel qui demande qu'on procède par le vote par bulletin. C'est peut-être après qu'on pourrait étudier les modalités ou les conditions de faisabilité de ce système électronique qui peut aussi nous offrir ces bienfaits en dépit de certaines limites qu'on peut énumérer comme cela s'est passé dans certains pays du monde tels que nous les connaissons.
Voilà, vous avez également, comme les autres, évoqué les difficultés liées à ce vote électronique, mais tout en reconnaissant qu'effectivement, c'est une bonne chose. Ça pourrait, en tout cas, nous éviter des problèmes de genre le retard accusé dans la compilation des résultats. Bref, ça permettra un contrôle citoyen et rapide du résultat. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Vienne en Autriche. Voilà, on revient à vous, Jérôme Bosso, notre invité. Vous êtes le président de la l'INELIT, Ligue Nationale pour des élections libres et transparentes à RDC. Vous avez assisté à l'organisation de ces deux élections 2006 et 2011. aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, comme l'ont dit les uns les autres, Jérôme, que l'idéal, c'est de garder l'option d'abord de bulletin, de vote avec bulletin, mais tout en commençant déjà à réfléchir, en tout cas au niveau de la société civile et aussi des législateurs, la possibilité de mettre en route ces deuxièmes modes de vote?
Oui, ce n'est même pas l'idéal. On est contraint et obligé à aller avec ça dépend l'étape. En fait, il y aura un scrutin ici chez nous. C'est en 2017 ou bien en 2018. Entre 2017 et 2018, dans l'espace d'un an, est-ce faisable, est-ce possible de recourir au vote par voie électronique? Nous disons non, du point de vue technique, du point de vue organisationnel, et du point de vue opérationnel, ce n'est pas possible. Mais si l'on s'est élevé, et nous-mêmes, quand nous allons nous trouver devant un fait accompli, la matérialisation de cette option, nous serons contraints à revenir au de bulletin papier qui va être pour nous incontournable pour le temps qui court. Mais du moins, nous pouvons oser le faire, comme les autres, j'ai donné le cas de Nigeria. Nigeria qui a aussi annoncé à peu près ça, on va faire tel. Mais si souvent on annonce bien, ça a été reporté. Mais c'est pour Nigeria aussi cette expérience, on va expérimenter cela. Nous aussi nous allons expérimenter. Quand on expérimente une opération, on expérimente par essai erreur. Quand on expérimente par essai erreur, il faut s'attendre où ça passe, où ça casse. Donc ici, quand ça casse, il y aura des conséquences. C'est pourquoi nous fuyons à ce qui est de fraude massive, qui puisse remettre en question le scrutin, nous devons améliorer. Améliorer, nous avons bien sûr qu'en passant par le vote électronique. Or, le coût d'un électeur dans un bureau de vote, avec les systèmes que nous avons, les systèmes classiques, le coût, ici, on compte à peu près, ça voisine dans l'espace, 30-50 dollars par électeur dans ce bureau de vote.
Oui, mais Jérôme Bosso, il y a plus d'un analyste qui estime que ces modes est très opportun et aussi très fondamental pour un vote, par exemple, direct ou un vote qui passe par les législateurs qui votent, par exemple, le président de la République.
Oui, nous sommes d'accord. C'est un mode, nous l'acceptons. La science a évolué, la technologie a évolué. Ça nous a donné. Mais nous décelons maintenant des failles, des attaques. Parce que si il y a aujourd'hui, à l'heure qu'il est, avec les élections présidentielles à travers le monde, où les grandes puissances puissent avoir trois de regard, celui qui doit être élu, au lieu de demander au souverain primaire, parce que le pouvoir appartient au souverain primaire, dans le mode vote électronique, le pouvoir n'appartient plus au souverain primaire. Mmh. Le pouvoir appartient maintenant au super piratage. Ceux qui maîtrisent cette technologie-là, ce sont qui vont faire imposer au peuple les dirigeants qu'ils veulent. Nous avons essayé, on est en train de déplorer par là, vous suivez l'actualité. C'est pourquoi nous disons, pour nous rassurer, parce que d'ici 5 ans, 10 ans, vous verrez qu'il y aura encore de ou bien une amélioration pour sécuriser le vote électronique, ou bien à des fois, on va mettre. Ce vote, parce que le piratage électoral est maintenant en train de développer des progrès à autre chose. C'est pourquoi le débat dans les pays de vieille démocratie, on commence à se soupçonner, à se regarder gauche à droite pour dire quelle puissance qui risquerait de nous torpiller notre force électorale. Donc nous sommes d'accord que c'est un mode beaucoup plus rapide et va nous faire des avantages intéressants pour nous, mais nous sommes un pays. Des jeunes démocraties, des démocraties naissantes, c'est d'autres démocraties naissantes, doivent être adaptées au contexte actuel qui est le nôtre, je le répète, c'est notre contexte, les sciences sociales, tentative de fraude massive électorale, ainsi de suite. Parce que tout ce qui va sortir de vote en ligne ou de vote électronique, tout le monde va dire c'est la Bible, amen, c'est bon. Mais on a démontré les failles et les limites de ce vote électronique. C'est pour voilà. Nous avons tout intérêt à expérimenter ces votes électroniques, mais pas dans l'immédiat.
Pas dans l'immédiat.
Ni en court, ni en moyen, mais plutôt à long terme. Comme sont en train de faire les Nigériens, la grande finance africaine, le Nigeria. Nous aussi, nous pensons, nous pouvons aussi, avec le temps, parce qu'on ne peut pas tourner le dos à la technologie des arbres, nous devons aussi nous adapter avec cette technologie. Comment encadrer?
Alors, est-ce que vous estimez, Jérôme Brosseau, vous en tant qu'expert en question électorale, que ces modes, dans bien des cas, réduisent sensiblement le contrôle citoyen?
Oui, ça réduit aussi le contrôle citoyen, c'est à quel niveau? Le contrôle citoyen est là. Le contrôle citoyen, ça va s'exercer les dirigeants qui sortiraient de cette technique électorale. Mais la peur, c'est quoi? La peur, on risquerait d'anéantir la souveraineté d'un peuple, du souverain primaire. Le souverain primaire congolais, africain, européen, américain, commence à être désabusé. Parce que ce n'est plus le souverain qui impose, qui élise. Qui est élu comme chef, comme président, c'est le système, c'est le cyber-piratage, c'est le cyber-attaque. Parce qu'on a des intérêts. Telle puissance a des intérêts dans un pays donné, il veut voir tel dirigeant, tel monsieur puisse être à la tête du pays. Là, on ne peut pas nous demander la vie des électeurs, la vie des Congolais, ou bien des Africains, ou bien des Européens. Là, c'est le système qui impose. À ce moment-là, vous verrez. Le résultat publié et tout le monde conteste et ça va relancer encore dans une crise de conflits post-électoraux, ce qui n'est pas du tout normal.
Voilà, merci Jérôme Brosseau. On va prendre l'ingénieur Battier qui est à Kisangani. Ingénieur Battier, bonjour. Ingénieur Battier?
Oui, Radio Capi, je te... Merci voilà. De m'avoir passé la parole.
Oui, quelle est votre contribution à ce niveau du débat, Général Battier?
Par rapport, je pense que nous ne sommes pas encore à adopter ces documents.
Voilà, on a des petits soucis avec votre ligne. Je compte, voilà, s'il faut compter la distance. On va prendre plutôt Dominique qui est en Boujimaï. On reviendra à vous, Général Battier. Dominique, bonjour. Voilà. Alors, Jérôme Brosseau, on parlait tout à l'heure de contrôle citoyen. Et c'est vrai, sous d'autres essieux, il y a quand même ces mots de, il y a un auditeur qui a évoqué tout à l'heure la difficulté, c'est-à-dire l'accès à l'énergie qui pose problème, l'accès à l'Internet aussi. Ce sont là les deux éléments qu'il faut quand même prendre en compte, hein, par rapport à notre pays.
Tout à fait, il faut prendre en compte. Comment on peut prendre des problèmes avec l'enrôlement des électeurs? La rétention de sources d'énergie, les groupes électrogènes nous amènent. Ça dirait cette capacité de rétention de toute l'énergie. Et si on installait ça dans nos villages, dans le fin fond, dans nos villages, ça pose des problèmes. Moi, j'avais assisté à ces votes électoraux aux États-Unis lors des élections de Bill Clinton dans un des États. Mais ça posait quand même un peu de problèmes. Et des fois, même nous avons assisté à l'élection de Boutego, où la machine était bloquée. Pour un certain président africain avait demandé à ce qu'on puisse recourir à lui pour envoyer les experts, pour aider les Américains à décanter les problèmes techniques liés au vote électronique. Donc c'est tout un problème. Un problème. Mais le souci, c'est quoi? C'est de nous partir, nous dire, nous, les contextes africains, les contextes qui est le nôtre, comment nous devons adapter pour que nous pouvons encadrer notre procès électoral. Nous pouvons encadrer pour que les voix de chacun puisse être prises en compte, que les voix ne puissent pas être détournées. Parce que c'est les amis français, les étrangers qui se plaignent. Qui, après avoir effectué leur vote par voie électronique, ils se sont rendus compte que ces votes-là ne sont pas pris en considération. Donc, il y a autant d'avantages et d'inconvénients. Mais le souci, le résultat final, c'est l'élu. Quelle légitimité l'élu a? L'élu a l'air clé. Avec les systèmes de vote en ligne, avec cyberpirates, est-ce que cette tenue a des légitimités internes ou de la légitimité externe? Or, tout élu doit avoir toute légitimité, légitimité interne, externe. Mais oui, toi, maintenant, c'est légitimité externe qui va primer sur la légitimité interne. Ce qui rendrait en cause, qui remettrait en cause la légitimité même de dirigeants. Pas seulement en Afrique, en Europe, le débat se déroule maintenant aux États-Unis, le débat se déroule maintenant en France. Mmh. On est en train de voir qu'on est,
comment
on
supprimer
est en
train
de remettre en question
Les votes électroniques des Français à l'étranger. Voilà. Alors, ben, et surtout que nous, par rapport aux élections prochaines, il y aura également des Congolais de l'étranger. Faut-il penser à instaurer ou à essayer ce mode en ce qui concerne les Congolais vivant à l'étranger, voilà, donc on les fait de manière un peu ambivalente.
Les Congolais qui sont sur...
Oui. Parce que nous n'avons pas encore testé. Nous n'avons pas encore... Je vous ai énuméré les quatre étapes pour arriver au vote électronique. Appel d'offres, test de matériel. On doit les tester à l'étranger, tout comme ici.
Et commander et déployer.
Voici, ça va donner. C'est exclu. Les Congolais de l'étranger, de la diaspora, les Congolais, nos compatriotes de la diaspora, seront obligés de se rendre là où se font les votes. Soit au sein de leur ambassade, soit au niveau des consulats, ils vont le faire. Et c'est coûteux, je sais que c'est coûteux, on n'a pas de choix. Parce que s'il ne suffit pas en matière d'élections, d'organiser les élections, parce qu'on doit les organiser, mais il faut se rassurer que les élections vont aboutir à résoudre les conflits, à ne pas relancer les conflits post-électoraux. Et c'est ça le souci.
Merci.
Mais si on dit, on doit le faire, soit par voie électorale, ou nous ne maîtrisons pas, encore le rouage électronique en nous, en ce qui nous concerne. C'est difficile. C'est interrogé maintenant le plus la plupart.
Voilà, alors Jérôme, si vous le permettez.
Nous sommes déjà en train d'expérimenter ce mode vote électronique.
Voilà, alors Jérôme, si vous.
Voilà.
Voilà, si vous le permettez, Jérôme, on va lire quand même quelques messages. Ils sont nombreux, hein, en tout cas pour ces sujets qui atteint plus de 4000 internautes. Merci à vous tous qui avez consulté ces thématiques et qui avez en tout cas eu l'intérêt de ce sujet et vous avez commenté. Nous avons pris juste un échantillon jusque là parce que l'ordinateur, on voit, c'est beaucoup. On ne saura pas tout lire en ce moment. Si vous le permettez, Jérôme, on lit quand même quelques-uns. Patrick Tola Pigou dit pense que c'est une façon pour la majorité en place de pouvoir compliquer également la situation. Cette proposition est inopportune, d'autant plus que ces modes de vote nous prendra un temps important. En plus de leur intention, nous estimons que les élections risquent d'être truquées et ça nous poserait encore des problèmes. Les États-Unis, je prends l'exemple des États-Unis avec une population forte en électronique, mais il a été réclamé par les Américains que Trump aurait truqué les élections. Si cela est ainsi pour les États-Unis, qu'en sera-t-il pour les Congo, qui a un déficit au niveau des données informatiques? Lissisa Akouli Mouchi Evariste estime qu'il s'il faut parler de la minimisation des dépenses, le gouvernement doit se rappeler qu'au nom de cette même minimisation du coût électoral, le deuxième tour de l'élection présidentielle a été supprimé. Et je crois que, bref, il est vrai que cette élection électronique ne permettrait que d'avoir des résultats en étant record, mais elle ne minimise pas les dépenses. Junior Bopongo Dembandaka pense que cette idée s'avère être indispensable, mais le moment est mal choisi pour deux raisons que voici. Personne n'ignore la course à la montre que court l'organe technique chargé des élections pour l'enrôlement des électeurs et la tenue des élections dans les délais suivant l'accord de la Saint-Sylvestre. Cette proposition va mettre en contradiction la loi électorale, car cette dernière précise fort bien que le scrutin à tous les niveaux, c'est fait par un bulletin de vote dans les isoloirs. Voilà, ainsi, il qualifie cette idée d'une bombe à retardement. Ingénieur Valérie, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue.
Bonjour JR, bonjour l'invité, bonjour à tous les intervenants. Je suis très content de suivre tous les intervenants ainsi que l'invité parce que je n'ai entendu personne qui soutient ce système. Ça montre que à tout moment, nous avons toujours des éléments sur qui nous pouvons compter pour reconstruire le pays. JR. Ce système est inopportun. Lorsque nous comparons les avantages et les inconvénients, nous devons chercher s'il y a au moins ne fût-ce qu'un seul inconvénient qui peut renverser les avantages. Et il y en a. On nous dit ici que le vote est moins coûté, mais l'invité nous a bien démontré que l'acquisition du matériel est excessivement chère. Pourquoi nous devons aller à ce système précipitamment et à ce moment? D'abord, la réunion interinstitutionnelle qui a regroupé le gouvernement, le Parlement et le président de la République. Mais vous savez que pour qu'une telle décision se prenne d'abord, il faudrait que nous commencions notre transition. D'autant plus que jusqu'aujourd'hui, le gouvernement actuel est axé d'alliés à la majorité. Donc, c'est comme si ce sont les mêmes alliés qui ont siégé pour venir donner ces résultats au peuple. En parlant de machines, nous sommes encore loin en électronique. D'abord, ce sont des machines qui exigent d'être utilisées dans des salles climatisées. On va les amener en plein air, on prend un ventilateur, on met derrière là, et finalement, dans moins de 2 heures, vous avez des problèmes. Combien de fois n'avons-nous pas appris que la CENI a des problèmes de panne avec toutes ces machines? 1. Ça, c'est de un, de deux, que la CENI même forme sur l'État son personnel au moyen d'une formation accélérée. Nous n'allons pas compter sur des formations accélérées, d'autant plus que ça requiert vraiment une grande technicité. Donc, nous ne pouvons pas aller comme ça maintenant. Il faudrait que ceux qui nous ont précédés, qui sont loin, qui sont très avancés en informatique, réussissent d'abord jusqu'au point d'éliminer toutes leurs erreurs, en commençant par les États-Unis. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons adopter ce système. Combien nous faut-il pour arriver aux élections? Il nous faut 526 millions 840 884 dollars. Ça, c'est ce que nous manquons, ça devient motif pour que nous puissions nous balancer à un système qu'on ne maîtrise pas. Ça va augmenter les contentieux électoraux pour rien. Encore avec ce système, la Cour constitutionnelle sera dans l'incapacité de trancher les contentieux électoraux. Donc, en tout état de cause, c'est un système inopportun. Je vous remercie.
Merci beaucoup, parce que quand nous scrutons d'ailleurs tout ce que vous venez de dire, ont été analysés par d'ailleurs cette institution IDRH avec Maître Maswaka, où il a été dit qu'en pratique c'est pratiquement impossible parce qu'une machine électronique ne coûte que 250 000 fois plus qu'une feuille de papier, à raison d'une moyenne de 200 votants par machine, par élection, et d'une élection par an. L'achat sera rentabilisé en 1250 ans. Donc voilà, ça risque d'être vraiment impossible. Il faut être visionnaire après tout. Donc il faut penser déjà à commencer à réfléchir maintenant pour qu'on arrive réellement à ce mode d'élection. Félicien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Gérard. Bonjour à tous les auditeurs de Okapi et bonjour à l'invité.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Tout a été déjà dit par mes prédécesseurs, mais ce que moi j'ai à dire, c'est le pays, la RDC n'a pas un problème de système électoral, il faut changer à tout moment. Nous avons déjà essayé les premiers systèmes à deux reprises, même si c'était pas très très satisfaisant, mais nous avons eu quand même des élections. Le problème que nous avons, c'est pas un problème d'argent non plus, mais c'est plutôt un groupe d'hommes a bloqué la démocratie, on ne veut plus organiser des élections. Et on s'appuie sur la constitution qui dit que tant qu'on n'organise pas les élections, les institutions qui sont en place peuvent aller même jusqu'à 100 ans. Et c'est là où nous en sommes. Ce que nous demandons, qu'on libère la démocratie et qu'on gouverne le pays pour l'intérêt général. On n'a pas besoin d'entrer dans des distractions qui ne se terminent pas.
Merci beaucoup, Félicien, d'avoir appelé de Kinshasa. Malonga, vous êtes dans le Bandundu-Ville. Bonjour.
Oui, bonjour, Gérard.
Quelle est votre contribution? Après avoir écouté les uns les autres, notre invité tout à l'heure évoquait la difficulté pour qu'on puisse réellement passer à ces modes de vote, en évoquant les temps que ça prend, notamment d'ailleurs les étapes pour aller au vote électronique. Il y a cet appel d'offres qui entre en ligne des comptes, il y a les machines qui doivent être testées, il faut passer commande, il faut déployer toutes ces machines à travers le pays. Tout ça, ça risque de retarder le processus électoral. Donc s'il faudrait accepter ces modes, ça doit s'inscrire dans la durée, pourquoi pas à long terme.
Ok, en tout cas, ce que l'invité a dit, c'était déjà prévisible. Puisque, suivant tout ce que nous sommes en train de vivre, ça se voit, et moi aussi, je suis d'accord de ça. Le vote ne peut jamais être lié dans cette année. Alors, ce qui est là, s'il vous plaît, mes prédécesseurs ont déjà tout dit. Moi aussi, je me répète, vous allez m'excuser. C'est bien que si le programme et la date est prolongé, en tout cas, il faut que ceux qui sont là, comme le gouvernant, doivent respecter cette période qui doit être maintenue en 2018. Pourquoi cela? Puisque nous savons que ce sont eux qui ont machiné en ce que cette période soit longue. D'où nous sommes soumis. Mais qu'ils soient gentils et qu'ils soient vraiment conscients que ce qu'ils sont en train de faire pour la population congolaise, ce n'est pas bon. Nous sommes la population,
merci.
Nous sommes soumises.
Merci beaucoup, Malonga.
Il faut qu'ils nous donnent le temps aussi de réfléchir et d'accepter ce qui sont acceptables, M. Gier.
Merci beaucoup, Maître Malonga, pardon, Malonga, d'avoir appelé de Bandundu. On va prendre Maître Adrien, je crois que ce sera le dernier auditeur. Vous nous excuserez, il y a eu beaucoup de messages par rapport à cette thématique et beaucoup de propositions également. En tout cas, c'est des propositions très pertinentes. Nous ne saurons pas lire tout sur les ondes. Je crois que nous renvoyons d'ailleurs ceux qui viennent à peine de nous rejoindre dans cette émission, qu'ils peuvent également... Les débats se tiennent aussi sur notre page Facebook et également sur nos différents réseaux sociaux. Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour JR, bonjour à tous les amis auditeurs.
Alors, quelle est votre réaction après avoir écouté les uns et les autres et qu'est-ce que vous vous proposez?
Oui, je pense que la proposition est bonne, mais il faut reconnaître que le temps n'est pas vraiment bien choisi pour qu'on puisse appliquer donc l'élection électronique, le vote électronique. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez même la loi, c'est vrai qu'on a donné deux possibilités. Mais au jour d'aujourd'hui, parce que ces votes-là, il faut d'abord qu'on puisse préparer la population, il faut qu'on puisse la sensibiliser, et aussi il faut donc former les personnels qui seront devant leurs machines pour que ça ne puisse pas prendre beaucoup de temps. Lorsque vous prenez le pays comme le Gabon, parce que le Gabon avait déjà prévu, mais à un certain moment ça s'est limité, donc ça s'est arrêté, et ce qui fait que tout le monde est en train de demander pour qu'on revienne à ce système-là. Mais chez nous, comme ça sera la première fois, parce que je ne pense pas que depuis l'indépendance de notre pays jusqu'à aujourd'hui, on a déjà appliqué ce système-là. C'est comme ça que moi je pense. L'idée n'est pas du tout mauvaise, mais elle est inopportune pour le moment pour qu'on puisse procéder à ce genre d'élection JR.
Merci beaucoup. Vous avez pratiquement rejoint vos prédécesseurs qui ont estimé que c'est pas inopportun, mais ce n'est pas mal comme proposition. Il va falloir qu'on se mette à réfléchir sur sa faisabilité, des conditionnalités de faisabilité ou encore de faisabilité pour arriver à instaurer ce mode qui est du reste disposé dans la loi électorale, la section 2, la loi modifiée en 2015, en son article 47, qui parle de mode de vote à papier ou encore de vote électronique. Merci beaucoup. Alors, on va conclure avec vous notre invité, Jérôme Bosso, président de la LINELIT, Ligue Nationale des Élections, pour des élections libres et transparentes en RDC. Vous avez suivi les uns les autres. C'est vrai, il y a un sentiment exprimé dans le sens de cette inopportunité de voir ce mode s'appliquer maintenant, et vous l'avez dit par plusieurs fois. Donc je crois que l'idéal pour vous, ça serait que les gens se retrouvent autour d'une même table, les institutions, pour en parler.
Oui, tout à fait. On doit dégager, c'est question des consensus électoral. On doit dégager un consensus électoral, mais le consensus est déjà dégagé au niveau de la loi, de la loi de l'article 47 de la loi électorale, Mais c'est du moins ce qu'on se porterait sur l'option à lever. Quelle option? Est-ce qu'on opte pour le bulletin, votre bulletin papier ou votre envoi électronique? Parce que maintenant, ce n'est pas seulement le Congo, l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, est en train de va être victime de l'émergence du cyberattaque ou du cyberpiratage électoral. Parce que dans le nouvel ordre mondial qui est en train maintenant de s'installer, va répondre maintenant à l'élection des dirigeants qui ne sont pas le produit du souverain primaire, mais plutôt produit du cyberpiratage électoral. Et c'est encore maintenant de tout pouvoir au peuple européen, au peuple américain, au peuple africain et aussi au peuple congolais. C'est ce que nous disons. Nous avons tout intérêt à nous entendre sur la question. Parce que la fraude électorale a déjà aussi des conséquences néfastes.
Voilà, on a des petits soucis avec votre ligne et nous profitons d'ailleurs à ce niveau pour vous dire merci. Jérôme Bosso, nous rappelons que vous êtes le président de la Ligue Nationale pour les élections libres et transparentes en RDC. Merci d'avoir été des nôtres et surtout d'avoir accepté d'échanger de manière citoyenne avec les auditeurs à travers le pays et aussi à l'étranger. Nous remercions en quittant donc André Mongou qui a assuré la mise en onde de ces programmes réalisés par Nico Kalambaye sous la supervision de Martin Sebujangwe. Une émission qui vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo, Luabung Anji. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.
L'émission Parole aux auditeurs que vous venez de suivre était une rediffusion.